Billy the Kid, Figouz et compagnie, c'est parti.
Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Billy the Kid, Figouz et compagnie. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode du Père Liénard. Et pour ce faire, eh ben, je suis avec Liénard. Salut Liénard.
Salut, salut tout le monde, salut Billy.
Salut. Alors, nous continuons à explorer le fleuve de Conquest et surtout ce qui s'est passé avant. Enfin, quel était le bordel avant le bordel du jeu. Dans le dernier épisode, nous avons un peu parlé des dragons, et donc, Lien, je t'en prie, rappelle-nous ce qui a été dit succinctement, et de quoi allons-nous parler dans cet épisode.
Ben, pour les auditeurs qui étaient peut-être un peu moins attentifs à l'épisode précédent, eh bien, nous parlions de l'arrivée des dragons sur Ea, de leur règne, de l'arrivée des exilés, les Spire, les Disseurs et les Silencieux, et de la guerre qui s'est ensuivie entre les dragons et les exilés, qui a mené à la défaite de ces derniers, et à l'obtention du pouvoir de la biomancie par les dragons. Dans cet épisode-ci, nous allons parler un peu plus en détail de la société draconique, et des raisons de cette guerre, et des raisons cachées du moins, et ensuite de la création des nains, puis de celle des Dwegom, et enfin de la grande guerre qui a opposé les Dwegom aux dragons. Voilà.
Et ben, nous allons enfin parler d'une race qui vaut le coup d'être parlée et qui est la meilleure.
Ouais, une race qui casse tout, comme on va le voir, mais pas sans raison.
Est-ce que tu parleras de la reproduction des dragons, ou c'est un truc... Non.
De leur quoi ?
De la reproduction des dragons, je sais pas, non, un petit peu.
J'en ai déjà parlé.
Ouais. Non, mais un petit peu de biologie, non, mais est-ce que. Non, enfin, bon,
personnellement, je ne vais pas dans les champs de dragons.
Comment papa va dans maman, enfin, voilà. Enfin...
Bon, beaucoup de mal, à mon avis, vu la taille des bestiaux.
C'est ça. Bon. Oh, peut-être qu'ils en ont pas une si grosse que ça. Hein.
Canard, il y a des choses qu'on ne veut pas savoir.
Un canard, c'est un mec de 30 cm.
Écoute, hein, il reste encore quelques dragons anciens en vie. Tu vas leur demander. Moi, j'y vais pas. Hein.
C'est vrai qu'il y a encore des dragons en vie. T'en avais déjà parlé chez Edouard. Enfin,
sur oui.
Bon, alors, vas-y, Liane, dis-nous ce qu'ils ont fait avec cette magie. C'est parti. Alors,
avant que je rentre dans cette histoire de biomancie, il faut expliquer un petit peu à quoi ressemble la société des dragons. Parce que ce sont une race sentiente, donc ils ont des codes sociaux, des normes culturelles, une civilisation au sens plein du terme. Mais si on se rappelle ce que je disais avant sur leur reproduction, c'est que à chaque génération, en raison de leur physionomie, physiologie, leur pouvoir magique, chaque génération de dragons est un peu plus faible que la précédente. Avec des anciens, les premiers arrivés sur Ea, qui font la taille de montagne, et les générations les plus récentes, qui font la taille d'éléphant à peu près, voire parfois un petit peu plus petit. Et la chose étant que y a pas d'avantage gagné à être d'une plus jeune génération qu'une plus ancienne. Un dragon, tout ce que peut faire un dragon ancien peut le faire, et en mieux en général. C'était un petit peu le problème de leur société, si on peut dire. C'est qu'elle était hiérarchisée par l'âge, fatalement, avec des dragons anciens qui ont un droit de regard sur tout, qui peuvent tout décider, et au-delà de ça, qui frustrent en permanence les jeunes, parce qu'à aucun moment, un jeune dragon ne peut se dire « Ah, je suis plus fort que mon parent. » C'est pas possible. Si le parent il s'entraîne un petit peu, il le dépassera. Et ça a créé chez les jeunes dragons une grande frustration et une envie de montrer qu'ils pouvaient faire mieux que leurs aînés. Et donc les dragons, qui au fur et à mesure des millénaires avaient raffiné leur pratique de la sorcellerie, se sont retrouvés avec des cachotteries. Les jeunes dragons étaient très déterminés à montrer leur supériorité. Du coup, ils travaillaient beaucoup, avec beaucoup d'audace sur la magie. Et les découvertes les plus intéressantes qu'ils faisaient, ils les cachaient à leurs aînés, purement et simplement. On a donc une société en quelque sorte à deux vitesses. En plus de ça, il y avait un autre point un peu embêtant au niveau sorcellerie, c'est que les dragons, bah, il fallait bien qu'ils se nourrissent, qu'ils se lavent, qu'ils fassent divers besoins et qu'ils s'occupent de leur hygiène, enfin tous sont des êtres vivants. Et pour ça, les dragons invoquaient en général des êtres élémentaires, des élémentaires de feu, de terre, de vent et d'eau. Mais le contrôle sur les élémentaires dépend de ta puissance brute, plus que de ta maîtrise, si on peut dire. Et bilan des courses, les dragons anciens pouvaient avoir de petites armées de serviteurs, là où les jeunes dragons pouvaient en avoir même pas une poignée. Allez, encore plus de frustration.
Et... Ouais, mais attends, excuse-moi, Lyon, mais à un moment, quand même, jeune dragon devient vieux dragon.
Ben, non.
Ou, enfin,
les
comme
dragons
ils...
ne vieillissent pas.
D'accord, donc en
ils
fait,
sont
ils
mortels.
Sont... Ok, donc en fait, premier arrivé, premier servi, c'est...
C'est ça.
Ok.
C'est ça, aucun jeune dragon... Alors, évidemment, il y a toujours un principe de vieillesse, c'est-à-dire plus tu vieillis, plus tu apprends de nouvelles choses, plus tu maîtrises de nouvelles choses. Mais ta puissance intrinsèque n'augmente pas chez les dragons, vu qu'elle est due à leur pouvoir, à leur esprit, si tu veux. Et l'esprit, lui, ne vieillit pas.
D'accord.
C'est, okay. C'est ça le truc.
Je comprends mieux. Ok, excusez-moi. Voilà.
Mais les anciens dragons, ils avaient quand même une faiblesse que les jeunes dragons n'avaient pas. Ils devaient dormir longtemps. Parce que plus le dragon était ancien, plus son esprit, on pourrait dire, est puissant, plus son âme était puissante, et moins son corps physique était capable de la supporter. Si on peut dire ça en ce terme, plus un dragon est ancien, plus son corps se désagrège vite, et plus il a besoin de dormir longtemps pour reprendre des forces et tout simplement récupérer son corps. En entier. Donc pour les dragons les plus anciens, une simple sieste comme ça, ça prend plusieurs siècles. Pour un jeune dragon, quelques jours. Et si on revient sur ce que je disais plus tôt, comme quoi les jeunes dragons cachaient des découvertes aux anciens, on se rend compte que c'était d'autant plus facile à faire. Et surtout, tout ça, ça a permis de voir l'arrivée des races sentientes. En premier lieu, les spires, les exilés. Quand les exilés sont arrivés, beaucoup des dragons anciens étaient en train de dormir. C'est les jeunes qui les ont réveillés. Et pourquoi est-ce qu'ils les ont réveillés? Ils les ont réveillés parce que les jeunes, ils s'étaient dit « Bon, visiblement, la création élémentaire, c'est pas trop pour nous. Par contre, si nos serviteurs sont capables d'avoir une conscience et de s'autogérer, ah ben là, il y a moyen qu'on en ait... qu'on ait un peu un peuple à diriger, quoi. Un peuple qui nous obéisse. Après tout, j'ai pas besoin d'être puissant physiquement pour savoir gérer un peuple. J'ai juste besoin d'être attentif, d'être malin. Et comment dirais-je, les anciens dragons leur ont répondu non. Non, on n'ira pas les capturer pour vous, on n'ira pas vous en ramener. Et les jeunes dragons exigeaient dans le traité de paix avec les spires quand la guerre est arrivée qu'une partie de la population des spires soit remise aux dragons. Et les anciens leur ont répondu encore une fois non.
Non.
N'est pas naïf non plus, on sait très bien ce que vous voulez en faire.
Prenez pas pour des jambons.
Tout à fait. Mais quand la voix des exilés, donc leur chef religieuse dont on a parlé la dernière fois, qui a trahi son peuple, enfin du moins qui a trahi la faction du souverain au profit de la faction religieuse, est venue leur parler de ce qu'elle pouvait faire et de sa capacité à manipuler la vie, sa fameuse alchimie organique, ben, les anciens dragons, ils ont eu des étoiles dans les yeux parce que ça leur a rappelé leur ancien rêve de créer effectivement des races vivantes, ce qu'ils n'avaient jamais réussi à faire jusque-là, avec leur sorcellerie. Et les jeunes dragons ont saisi l'opportunité qui était proposée et ont dit, bah écoutez, non, allons pas leur prendre leur maîtrise de la vie. C'est nos alliés, on va quand même pas leur prendre un de leurs secrets, ça se fait pas. Non, par contre, on peut récupérer la biomancie chez les ennemis. Et là, les anciens sont laissés aveugler par leur envie de créer, et ont dit d'accord. Ils le savaient pas, mais ça allait leur coûter très très cher. Donc, le traité de paix est signé. Les tisseurs, guidés par la voix, commencent à s'exiler, sans mauvais jeu de mots, vers les forêts à l'ouest, où ils vont s'isoler et faire leur truc de leur côté. On y reviendra. Dans un prochain épisode. Et les dragons récupèrent 3 biomanciens particulièrement doués et vont s'aventurer dans les profondeurs de la Terre, très profondément, pour se rapprocher du cœur de la planète, Destruction. Parce que plus Destruction est près de toi, plus l'énergie qui s'en dégage est puissante, et plus la sorcellerie devient puissante. Mmh. Donc pour faire des trucs un peu compliqués, il vaut mieux être près du centre que trop à l'extérieur. Et donc c'est quelques anciens dragons y vont, et ils amènent quelques jeunes dragons avec eux pour, entre guillemets, faire expérimenter les jeunes. On pourrait dire ça. Puis bon, ils ont pas ramené que des jambons, hein, ils ont ramené des jeunes prometteurs, très doués. À vrai dire, les anciens n'étaient pas non plus totalement naïfs. Ils savaient très très bien que pendant qu'ils dormaient, les jeunes bossaient. Et ils savaient aussi que, comme les jeunes ne pouvaient pas utiliser la force brute pour créer des sorts, ils étaient forcés d'être plus fins que leurs aînés et d'être un peu plus malins dans leur art de tisser la magie. Mmh. Et donc ils se sont dit, pour créer des êtres vivants, ça sera utile. Mmh. Et ils se sont mis au travail. Au bout de quelques années, ils ont réussi à créer des petites plantes. Au bout de quelques décennies, des petits insectes. Quelques siècles plus tard, des petits animaux, des petits mammifères. Et encore des siècles plus tard, bien plus tard, le premier être conscient, créé par leur magie et par la biomancie. Mmh. Et ils en étaient complètement gaga. Ils étaient fous. Ils avaient enfin réussi leur grand objectif, leur grande œuvre. Alors là, ils ont commencé à réfléchir comment est-ce qu'on pourrait en faire un serviteur utile. On se doute que c'est plutôt les jeunes qui l'ont demandé, hein. Mais bon, dans l'excitation du moment, dans l'envie de faire plus, ça s'est fait. Alors, ils auront déjà commencé par lui instaurer une loyauté perpétuelle. En gros, c'est un peu comme si tu programmais un Terminator avec l'ordre de ne jamais s'en prendre à un être humain. Ils leur ont aussi donné une vie très longue, plusieurs siècles. Ils n'ont jamais réussi à les rendre immortels, c'est pas faute d'avoir essayé, mais ça rate. Une grande capacité à créer des œuvres d'art. Ils les ont fait larges d'épaules, puissants physiquement, aptes à vivre dans des cavernes, dans des mines, à exploiter la terre. Et ce premier être, ces premiers êtres, car au final il y en a eu plusieurs, hein, ils les ont nommés les artisans. Crafters en anglais. Mais comme ils étaient tout petits par rapport aux dragons, bah, les dragons leur ont donné un surnom affectueux. Les nains. Ils en ont fabriqué plusieurs centaines, possiblement plusieurs milliers, et ils les ont amenés avec eux jusque dans les profondeurs près de la surface. Moins profond. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte de quelque chose. Bah, comme ils ne sont pas immortels, à chaque génération, il fallait leur réapprendre ce que la génération précédente avait appris. Puis ça les a rapidement gonflés, les dragons. Aussi, ils ont fait une petite modification dans le code génétique et ils ont donné aux nains une mémoire quasiment parfaite. Genre, un nain, il peut se souvenir pratiquement de sa naissance plusieurs siècles plus tard.
Ah ouais, pas mal.
ça évitait de devoir tout réapprendre à chaque fois.
Bah, ils devaient quand même apprendre de la génération précédente.
Oui, mais ça, à la rigueur, les nains pouvaient s'en occuper entre eux.
Ah oui, d'accord.
Parce que vu qu'ils pouvaient pas oublier.
Ouais,
c'était
ouais,
que
ouais.
Si t'as un de tes vieux nains qui meurt, bah son savoir est pas perdu, quoi.
Ouais.
Il a
C'est pas
toujours
mal,
le...
ça.
C'est ça.
Mais Dev devrait en prendre de la... devrait prendre l'idée.
Tout à fait. Bah écoute, si un jour tu croises un exilé, tu lui proposes. Hein. Et donc les dragons ont commencé à s'occuper des nains, et les nains à travailler pour les dragons. Donc ils exploitaient les mines, ils travaillaient avec d'énormes automates que les dragons avaient créés pour les aider et pour s'occuper des forteresses. Automates élémentaires, on l'aura compris. Et les dragons, il faut bien le dire, c'est pas des très très bons maîtres. Il y avait des dragons meilleurs que d'autres. Il y en avait des plus sympathiques que d'autres. Des plus tolérants, des plus prévenants. Mais généralement, les dragons envers les nains, ils avaient un petit peu un sentiment de supériorité. Un peu le mépris du maître envers l'esclave. Pas tellement plus. Hein. Et du coup, les nains avaient beau créer des forteresses décorées de partout avec des frises incroyables, des architectures toujours renouvelées sur plusieurs niveaux, créer des chambres pour les dragons pour qu'ils puissent dormir dans des décors somptueux, leur créer des bijoux. Ils avaient beau tout faire. Les dragons étaient jamais totalement satisfaits, même s'ils étaient émerveillés, hein, ravis de ce qui se passait. Mais ils étaient toujours exigeants, toujours à demander plus et plus et plus.
Ouais, on revient sur l'avarice dont tu parlais
c'est ça. Tout à fait.
Précédemment.
Surtout les jeunes, comme toujours.
Génération dorée.
Ah, c'est trop ça, c'est le monde paravolo, quoi. Sauf que, petit à petit, à partir d'à peu près un millénaire de ce régime, les nains ont commencé à en avoir ras-le-bol. Et il y a eu des protestations. Des protestations pacifiques, au début, qui ont été ou bien ignorées ou bien réprimées. Ensuite, il y a eu des sabotages. Après ces sabotages, il y a eu des cellules de résistance, si on peut dire. Puis des révoltes à plus grande échelle. Mais tout a été écrasé dans l'œuf, parce que comme les nains étaient programmés pour obéir aux dragons, il suffisait qu'un dragon un petit peu ancien fasse pression sur eux, et ils craquaient, ils se remettaient au travail. Et ces nains-là ont été punis de façon très dure, les leaders étant en général exécutés.
Ouais.
Et leurs serviteurs, leurs suivants, étaient envoyés dans les mines les plus profondes, plus dangereuses également, pour récolter les métaux et des pierres précieuses. Ah oui, là il faut que je fasse un petit aparté, hein, qui n'est pas forcément inclus dans la chronologie. Mais quand je dis que les profondeurs sont dangereuses, c'est pas qu'à cause des éboulements, des coups de grisou ou choses comme ça. Il y a destruction au centre de la Terre. Et Destruction, si on se souvient du premier épisode, il a été blessé par création. Et il saigne en permanence. Et quand ce sang arrive à l'air libre, que ce soit dans les cavernes ou un peu plus haut, il se transforme en monstre. Ce qu'on pourrait appeler un peu l'équivalent des démons dans Conquest. Et ces créatures-là sont extrêmement dangereuses. Voilà. Autant dire que quand t'es en train de miner du diamant et que tout à coup tu te retrouves face à une bestiole de 6 mètres de long, bon, c'est compliqué.
Ouais, et que t'as que ta pioche, ouais.
C'est ça. C'est complexe, hein. C'est complexe. Pas et du coup, certains de ces révoltés ont creusé encore et encore. Et ils sont arrivés sur une chambre, une grande salle, qu'ils n'auraient jamais dû trouver, mais auquel ils étaient quand même arrivés. La chambre du troisième cavalier de l'Apocalypse, Guerre.
War.
Guerre. Qu'est-ce qu'il fichait là, celui-là? Eh bien, Guerre, il avait été emprisonné, donc on s'en rappelle, hein, pendant la guerre des cavaliers, emprisonné par les dragons, alors sous forme spirituelle, et enchaîné quelque part sous la surface. Visiblement, ce quelque part, c'était là. Ils l'avaient emprisonné d'une façon un peu particulière. C'est-à-dire qu'ils avaient pris guerre, ils l'avaient brisé en 1000 morceaux, et ils l'avaient reconstitué sous un corps instable, où en fait, toutes les parties de son corps se battaient les unes contre les autres, s'annulant en permanence. Okay. Et le tout avec une bonne grosse prison bien ensorcelée autour, histoire qu'il n'y ait jamais un des fragments qui parvienne à unifier les autres. Ce serait quand même ballot, faut avouer. Mais donc, guerre, c'était plus ou moins une espèce de magma d'énergie destructrice. Et là, on va rentrer un peu dans la fan théorie, parce que quand il va voir ses nains, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Est-ce qu'il leur a proposé son aide ? Est-ce que ce sont les nains qui se sont emparés de sa force ? Sans lui demander. Est-ce que la théorie, on va dire, la plus commune, c'est qu'il s'est laissé capturer, on pourrait dire, pour pouvoir s'échapper. Après tout, vaut mieux être, entre guillemets, absorbé par une race que coincé sous terre, enchaîné à des pierres.
C'est une question de point de vue.
Ah.
Mais et, oui.
En tout cas, toujours est-il que ces nains révoltés ont réussi à absorber sa puissance, la puissance de la terre et du feu, pour augmenter leur pouvoir de façon absolument considérable. Alors, il ne faut pas non plus être trop surpris quand je dis que les nains, des sorciers nains, ont fait quelque chose. On sait, d'après le lore de Hell, qui est sorti récemment, qu'il existait des sorciers nains. Ce qui doit vouloir dire qu'à un moment ou à un autre, il y a eu des nains qui étaient assez fidèles aux dragons pour qu'on leur apprenne la magie. Voilà. C'est du moins, visiblement, c'était le cas. Bien sûr, on peut se douter que c'était qu'une infime minorité de la race, hein, mais c'est arrivé. Toujours est-il que, du coup, ces sorciers ont commencé à changer. Ils étaient un peu plus grands que leurs homologues nains. Leur apparence avait aussi un petit peu changé. Ils avaient l'air un peu plus enflammés, on pourrait dire, ou un peu plus rocailleux. Et surtout, ils avaient une envie pressante d'apporter la guerre aux dragons et aux nains qui n'avaient pas encore rejoint leur révolte. Et ce fameux don, ce don de guerre, c'est comme ça qu'ils l'appellent, ils l'ont partagé avec tous les volontaires qui les rejoignaient. Quoi. Ils ont appris à se battre, ils ont appris à manipuler leur magie pour détruire. Et après quelques décennies, quelques siècles, ils avaient une armée qui était suffisante pour aller déloger les dragons. Sauf qu'il restait un problème. Quand bien même ce fameux don de magie, ce don de magie, ce don de guerre pouvait les libérer de leur loyauté aux dragons, il restait que le dragon ancien était beaucoup trop puissant pour être battu. Mais justement, il y avait quelque chose qu'il savait, qu'il faut que je vous précise, c'est que dans Lord of Conquest, quand vous fabriquez un artefact magique, vous vous liez à lui. C'est-à-dire que si cet artefact est détruit, vous ressentez un choc qui va être proportionnel à la puissance de l'artefact. D'ailleurs, il y a même des mages qui sont morts, qui sont tombés dans le coma, parce qu'ils étaient en mauvaise santé quand un de leurs artefacts était détruit. Et la prison de guerre, donc ils avaient absorbé un peu du pouvoir de guerre à travers elle, mais la prison de guerre en elle-même était probablement l'un des plus puissants, si ce n'est le plus puissant artefact jamais créé. Et il a été forgé par les dragons anciens. Est-ce que tu vois la douille venir ?
Ouais, je la sens.
Les sorciers ont donc brisé la prison de guerre. Et ça a eu l'effet de tuer ou de mettre dans le coma la totalité des dragons anciens du monde.
Et vlant dans les dents.
Mais du coup, tous leurs serviteurs les plus puissants, tous leurs élémentaires, sont tombés en rade également. Ou n'étaient plus contrôlables. Occupés à faire les mêmes tâches éternellement, ou alors tout simplement à partir en vrille et à attaquer ce qui se passait. Bon, ça, c'est moins de canon, j'aime. Et toujours est-il que ça a eu un second effet secondaire. C'est que l'explosion a été tellement puissante qu'elle a détruit le monde. Elle a brisé les continents. A brisé les continents originels et ça a créé les continents tels qu'on les connaît actuellement dans Conquest. Voilà. Maintenant,
pourquoi avant c'était une Pangée enfin, c'était...
On ne sait pas trop, mais visiblement les continents étaient beaucoup plus gros.
D'accord.
Maintenant tu te mets un peu à la place des dragons et des nains.
Alors les vrais nains. Fidèles. Enfin, les fidèles.
Okay. À partir de maintenant, je ne parlerai plus de nains pour les Dwegom, je ne dirai que les Dwegom. Parce que c'est ce qu'ils sont devenus.
D'accord.
Tu te mets à la place des nains et des dragons, qui viennent de voir la tête de leur hiérarchie être décapitée, et le monde s'effondrer sous leurs pieds. La douille. Et pendant que tu tentes de te reconstruire, t'as des armées de Dwegom super énervés, boostés à la magie, avec des armes spécialement forgées pour l'occasion, qui viennent pour te massacrer.
Ouais, faut mettre un pantalon marron.
Voilà.
Mais d'un autre côté, les jeunes dragons, ils devraient être contents, puisque les vieux, ils sont HS.
Je pense que vu l'état dans lequel devait être leur forteresse, c'était pas vraiment leur problème principal, tu vois.
Ah, ils ont quand même un peu de jugeote.
Okay. De toute façon, ils l'ont pas gardé longtemps, vu qu'ils se sont fait exterminer dans la foulée.
Ouais, mais bon, une gloire éphémère est quand même une gloire.
Ah, ça, faudra leur demander. De toute façon, tu peux demander au Drake, hein, après tout, hein. C'en est.
C'est vrai.
C'en est, c'est des dragons dégénérés. Et c'est un peu... Là, pour le coup, il faut le dire, hein, c'est que ça a été peut-être pas à sens unique, mais pas loin. Les Dwegom sont remontés, ont massacré tout ce qui leur passait sous la main, tous les nains qui refusaient de se rendre, passés au fil de l'épée aussi. Et c'est comme ça qu'en quelques décennies, ce qui était la race la plus ancienne, la plus puissante d'EA, a été purement et simplement génocidée.
Ouais.
Il y a eu quelques survivants. À Yggdrasil, la grande spire qui a été une œuvre conjointe des spires et des tisseurs. J'y reviendrai un jour où je parlerai des Nords. Sous cette spire, du coup, il y a un dragon ancien qui a survécu, Nidhogg. Dans une des forteresses, on sait, d'après un artwork, qu'un autre dragon ancien a survécu et que depuis ce temps-là, il est enchaîné sous terre, tenu par autant de chaînes qu'il est possible d'en mettre sur un être. Et qu'il est plus ou moins engagé dans une bataille de volonté avec le Raeg, le roi de la forteresse locale. Les dragons plus petits ont été réduits en esclavage et réduits à l'état de bêtes de somme jusqu'à ce qu'ils dégénèrent en Drake.
Ah oui.
Voilà. Ils sont pas contents les Dwegom, hein. Pas contents du tout.
Mais donc, ça veut dire que, en gros, enfin, à part cela, enfin, dans le fleuve connu, on ne sait pas s'il y a un dragon, enfin, des dragons qui vivent, enfin, ou en tout cas qui essayent de se reformer avec des nains fidèles et ainsi de suite. Ou c'est quand même sous-entendu.
Il reste trois nains. Il reste trois nains dans le lore de Conquest. Ces nains. Bah, en même temps, je reviendrai dessus, je pense, un jour, bien sûr, parce qu'ils ont une influence assez importante. Et donc, ces nains, c'est des nains qui sont partis au nord, vers Monheim. Il y a Fafnir, Otr et Regin. Trois sorciers nains qui se sont enfuis. et qui tentent justement de redonner une armée, on pourrait dire, aux dragons. Bon, il faut lire le lore de Hell pour ça. C'est pas des gentils. Hein. Si les Dwegoms sont des monstres, ils valent pas beaucoup mieux.
D'accord.
Mais, on en arrive donc à la situation finale. Les forteresses ont été conquises. Les dragons sont exterminés. Je crois qu'il y en a un autre qui se trouve dans la forêt avec les tisseurs. Mais bon, ça fait qu'un de plus. Hein. Les dragons ont été exterminés. Les Dwegom sont les nouveaux maîtres. Ils s'installent dans les forteresses abandonnées. Ils les reconstruisent et les retaillent à leur image. Les nains qui se sont rendus rejoignent les rangs des Dwegom et partagent le don de guerre. Les nains qui ne se rendent pas ou qui sont horrifiés parce que leurs frères sont passés au fil de l'épée. Et là, il y a un problème. Il y a un problème parce que les nains ressentent au plus profond d'eux-mêmes que quelque chose ne va pas. Ils sont en colère, ils sont furieux, ils veulent détruire, ils veulent faire la guerre. Et là, on arrive à la théorie qu'on croit guerre s'est laissé capturer. Parce que maintenant, il est dans le cœur de chaque nain. Et il peut les influencer.
De chaque Dwegom.
Chaque Dwegom, pardon.
Attention.
C'est une insulte de dire nain pour un Dwegom. Hein.
Non, parce que là, je ne comprenais plus si c'était nain se transformait en Dwegom ou si c'était un abus de langage.
C'est un abus de langage.
Ouais, d'accord. Donc en fait, la fan théorie, c'est que il s'est dit, je vais continuer à vivre, mais au travers d'une race, et puis basta, quoi.
C'est ça. Et je serai libre. Ils seront les instruments de ma destinée, quoi.
Ouais, ça se tient.
Voilà. Et donc des tensions ont commencé à venir à cause de ça, parce que ils ont commencé à se chercher des noises entre eux. Puis il y avait une autre grosse question, hein. Qui allait les diriger? Qui serait leur nouveau chef? Les chefs de forteresse. Et pour ça, ils ont donc commencé à se tourner vers ce qu'on appelle les mnémanciens, qui sont des gardiens de la mémoire, on pourrait dire. Un peu des maîtres des runes, si je dois paraphraser du Warhammer, de Donjons et Dragons. Ce sont les nains, en fait, qui gardent la mémoire de la race de Gomme. C'est eux qui entendent toutes les histoires des Dwegom, qui lisent tout ce qui a été écrit par les Dwegom pour se souvenir de tout. Sachant qu'après, bien sûr, il y a des mnémanciens qui se spécialisent. Il y en a qui sont plutôt axés, ils vont lire toutes les histoires des clans, d'autres qui vont lire plutôt toutes les histoires de la magie, etc. Après, ils se débrouillent. Ensuite, ils se sont rendus compte que les registres des mnémanciens étaient un petit peu différents selon la forteresse dans laquelle ils se trouvaient. Parce que t'as beau avoir une mémoire parfaite, t'as pas forcément la même vision d'un événement. Tu l'as pas forcément interprété de la même façon. Et c'est là qu'ont commencé les fameuses guerres des mémoires. Parce que quand deux Dwegom sont en désaccord, souvent ils vont régler ça à coups de poing. Quand c'est des mnémanciens qui sont en désaccord, souvent c'est des clans entiers qui partent en guerre. Parce que celui qui aura la victoire aura, entre guillemets, le bon droit de son côté. Vu que la mémoire de sa race ira dans son sens. Et c'est ce qui a donc débuté ce qu'on appelle les guerres de la mémoire, et elles ne se sont jamais vraiment arrêtées, on pourrait dire. Ce sont des guerres permanentes au sein des forteresses ou entre les forteresses sur des sujets triviaux, des événements historiques sur lesquels les Dwegom ne sont pas d'accord, sur des querelles entre les forteresses ou entre les clans qui n'arrivent pas à s'entendre, que ce soit sur des pratiques magiques, ce genre de choses. Et puis encore aujourd'hui, elle continue, même si les Dwegom sont en guerre contre d'autres races, parfois ça arrive que des guerres entre eux persistent. Il y a d'ailleurs une très très bonne histoire dans la nouvelle Ardent, où des Dwegom se battent pour les beaux yeux d'une Dwegom. Alors au début, ça arrive à rester à peu près localisé. Ils se battent avec des armes mouchetées. Donc ça va. Puis il y a le Dwegom perdant qui estime que non, mais la valeur d'un Dwegom, c'est pas forcément que le Dwegom individuel, c'est son rôle dans le régiment et tout. Du coup, il appelle des camarades de son clan et des amis. Son adversaire fait de même et ils sont limite des régiments à se mettre sur la tête. Puis comme ça s'envenime, il y a carrément tous les clans de part et d'autre qui commencent à arriver. Puis les clans alliés qui commencent à arriver aussi pour régler les comptes.
Ouais, c'est un peu le bordel, quoi.
C'est ça. Et heureusement qu'il y avait des mnémanciens et le raig local qui ont mis le holà parce qu'ils étaient en train de commencer à sortir les drakes de combat.
Oui, oui. Autant y aller à fond, quoi.
Voilà. Et qu'ils avaient arrêté les armes mouchetées. Ils étaient passés au vrai.
Oh là là.
C'est ça, une guerre de la mémoire. Et ça peut partir de rien. Mais...
Ok.
Mais. Maintenant... Si on passe en mode macro et qu'on voit la situation dans le monde, les dragons n'existent plus. Les spires sont encore très diminués. Ils ont commencé à reprendre du poil de la bête, à se restructurer, mais c'est pas encore ça. Les tisseurs sont isolés. Les silencieux, on sait pas où ils sont. Et les Dwegom sont trop occupés à se mettre sur la tronche pour s'intéresser à ce qui se passe à la surface. Donc, il n'y a plus de force de domination en Ea. Et c'est à ce moment-là que vont arriver des êtres qu'on n'attendait pas. Des espèces de singes qui marchent sur deux pattes. Les humains. Qui avait commencé, pendant que les autres races se battaient, à s'organiser en petites tribus nomades qui vagabondaient un peu partout. Et une de ces tribus va s'aventurer dans une forteresse Dwegom abandonnée. Peut-être qu'elle a été décimée par les guerres de la mémoire, peut-être qu'elle a été abandonnée pour une autre place forte plus pratique, on ne sait pas. Toujours est-il que, dans cette forteresse, il y a un four. Et dans ce four, il y a une écharde de magie, une écharde de la création, il me semble, et qu'elle brûle encore un petit peu, parce que c'était elle qui, avant, alimentait donc cet énorme four à métaux. Et les humains vont se rassembler autour de cette écharde et vont commencer à la prier pour la remercier du feu et de la protection qu'elle apporte. Et ça, c'est l'événement fondateur du prochain chapitre, la naissance du Dominion, que nous verrons la prochaine fois.
D'accord, c'est déjà le Dominion.
Exact. Et c'est passé vite, hein.
Ouais, mais en fait, en gros, là, depuis... Enfin, temporellement parlant, ça fait combien de temps, enfin, par rapport à la guerre des cavaliers et ainsi de suite, là?
Le Conquest est assez vague sur ces dates. T'as pas vraiment de... En telle année, il s'est passé ça.
Ouais, c'est même pas... Ok.
La guerre des cavaliers, elle est immémorielle. On sait pas quand ça s'est fait. Il y a des dizaines de milliers d'années, peut-être. L'arrivée des exilés, ça doit faire 3-4 000 ans, je pense.
Ouais.
Et l'arrivée des Dwegom, ça doit faire, pareil, quelques siècles.
D'accord.
Mais tous ces événements se passent sur un temps relativement court. Quand on compare avec d'autres univers qui n'ont pas de mal à balancer du 8-10 000 ans entre deux événements majeurs. Là, pour le coup, dans Conquest, tout se passe sur à peu près, j'estime, à peu près 4-5 000 ans.
Ah ouais, ça fait quand même de sacrés changements. Bon, c'est sûr qu'au niveau humain, ça fait du monde, quoi. Enfin, ça fait loin, mais tu parles, enfin, ne serait-ce que pour les Dwegs, quand tu penses bah, la transformation en nain, trouver guerre, remonter à la surface, même s'ils sont badass quand même, avoir la puissance militaire pour détrôner les dragons, je pense qu'il y a quand même un moment où ils ont dû récupérer l'ascendant, enfin.
Après, on peut
Ou alors
toujours.
c'était une blitzkrieg, mais bon.
Après, c'était. Après, c'est toujours un peu délicat parce qu'on peut. Les événements sont toujours assez. Ils sont détaillés, mais pas forcément détaillés dans les méthodes. Il y a, je pense, un aspect un peu mythologique à la chronologie ancienne de Conquest. C'est pas vraiment. C'est pas des batailles de chiffres, si tu veux.
Ouais.
Peut-être que les Dwegom ont surtout gagné les guerres parce que, bah, finalement, beaucoup de nains les ont rejoints, si tu veux. Quand ils se battaient. Ou parce que la surprise était telle que les dragons ont été incapables de se défendre. Ou ils se rejetaient la faute les uns sur les autres. On sait pas, peut-être. Mais toujours est-il qu'effectivement. En même temps, c'est vrai que quand on y réfléchit. Alors, bien sûr, faire des parallèles avec l'histoire humaine, c'est toujours la vraie histoire, hein, c'est toujours un peu compliqué. Mais regarde le nombre d'empires qui ont grandi et qui ont chu en l'espace de simplement 1000 ans. Entre l'an 0 et l'an 1000.
Ah oui, non, mais tout à fait, c'est pour ça que je disais à
Et
l'échelle humaine, quoi.
ça,
Ça fait
quelque
beaucoup.
part, est-ce que ça paraîtrait. Alors c'est discutable, hein. Et quelque part, est-ce que ça paraîtrait pas plus bizarre qu'il ne se passe rien pendant 10 000 ans, tu vois?
Certes. Non, mais comme les dragons, enfin, comme tu disais, c'est des êtres qui vieillissent, mais qui sont intemporels, enfin, qui sont quasi immortels. Tu peux te dire que la notion du temps était peut-être pas la même et que en fait ouais enfin c'est avec l'arrivée des humains au fait que t'as une notion de temporalité quoi.
Quelque part, ce manque de notion temporelle a été leur perte. Hein.
Ouais.
S'ils avaient pas, enfin, s'ils n'avaient plutôt, c'est pas qu'ils le voulaient, mais s'ils n'avaient pas eu besoin de dormir pendant des siècles, bah, peut-être qu'ils se seraient pas laissés avoir pour les plus jeunes, et peut-être qu'ils auraient pu échapper à ce destin, qui sait.
Ils
Mais
ont
bon,
été imbus de leur pouvoir.
condamnés par lui, c'était pas comme on le voit. Bah, toujours est-il que maintenant les dragons ne sont plus vraiment une force en présence dans EA et même dans le jeu de. Alors, il y a un petit dicton que j'aime bien, c'est que dans les jeux de fantasy, en général, quand on te dit la race est exterminée, c'est qu'il doit en rester 2 ou 3 000 quelque part sous terre.
Ouais.
Mais dans le cas des dragons, pour le coup, on sait qu'ils ont été exterminés, exterminés. Là, c'est dit, c'est fait. Et d'ailleurs, je tiens à dire que les Dwegom sont sans doute ceux qui le regrettent le plus, hein, parce que t'annonces au Dwegom qu'il y a un dragon sous Yggdrasil, je t'annonce que t'as unifié la race. Hein. Quoique, ça ne les aide pas forcément. J'aurais d'ailleurs quelques petites anecdotes marrantes à raconter sur les Dwegom quand on arrivera dans, je pense, ou peut-être pas le prochain chapitre, dans celui d'après.
Ouh, ces anecdotes croustillantes.
Ah, très, 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 très.
Donc voilà.
Exactement. Ouais.
Donc plus, enfin voilà, les Dwegon sont là et le Dominion sera le prochain chapitre donc.
Tout à fait. La naissance du Dominion et d'Azlia, le dieu des humains.
Oh. Eh ben écoute, merci à toi Yann pour pour ce super épisode. Encore une fois, super sympa. J'espère qu'il vous a plu à vous aussi, chers auditeurs. Et donc, bah, vous l'avez compris, retrouvez-nous dans le prochain épisode du Père Liénard si vous voulez en savoir plus sur le Dominion. C'était Billy the Kid avec Liénard. Fin de l'épisode. Merci à tous. À vous les studios. Bonne
Merci,
soirée.
merci, bonne soirée.
Hop là.